La revue de presse internationale avec vous, Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
À travers la presse mondiale ce matin, on s'interroge sur le dilemme d'Idlib en Syrie.
Oui, c'est le journal en ligne Al-Monitor, entre autres, qui pose les termes de ce dilemme. Que faire des 10 000 terroristes liés à Al-Qaïda qui sont terrés dans le réduit d'Idlib, une région qui compte encore 3 millions de civils et qui redoute d'un jour à l'autre l'assaut ultime lancé par l'armée de Bachar al-Assad avec ses alliés russes et iraniens. La Turquie voisine, nous dit Al-Monitor, est consciente du fait qu'il faut en finir avec cette enclave djihadiste, mais elle redoute un nouveau flot de réfugiés syriens à sa frontière, car les derniers habitants d'Idlib ont déjà commencé à fuir les bombardements ce week-end, comme le montrent d'ailleurs les derniers reportages diffusés ces derniers jours par Al Jazeera. Mais Ankara a échoué en fin de semaine dernière à obtenir des groupes rebelles non armés de la région qu'ils se désolidarisent de ceux qui sont sous franchise d'Al-Qaïda. Ces forcenés-là, nous explique Al-Monitor, n'ont aucun intérêt à négocier l'ouverture d'un couloir humanitaire pour évacuer les civils, car ils ont besoin que la bataille d'Idlib soit la plus meurtrière possible pour fragiliser les Russes et les Iraniens et espérer se maintenir coûte que coûte dans leur réduit. Cette logique des civils comme boucliers humains, si elle ne semble pas émouvoir les bombardiers de Damas et de Moscou, elle est attestée par les informations publiées par le Washington Post au début du week-end dernier. Ces reporters y signalaient toute une organisation de la terreur mise en place par les islamistes du Hayat Tahrir al-Sham autour d'Idlib pour traquer, torturer et exécuter tous ceux qui seraient tentés de fuir, de se rendre ou de négocier une reddition.
Et bien peu de certitude après l'élection législative d'hier en Suède, Camille.
Oui, au lendemain du vote, bien malin, qui peut dire qui va pouvoir former le prochain gouvernement, reconnaît ce matin la télévision publique suédoise SVT. Et la montée de l'extrême droite qui réussit son plus haut score avec autour de 18% des voix, mais reste la troisième force politique du pays, n'est finalement déjà presque plus un soulagement ou un sujet de discussion pour les commentateurs politiques suédois. La politique des blocs est morte, commentait dès les premiers résultats hier soir sur SVT toujours le chef des sociaux-démocrates, le premier ministre Stefan Löfven, qui compte bien se maintenir au pouvoir. Et vu le très faible écart, un seul siège de député qui sépare la coalition rouge-vert de Stefan Löfven et l'alliance du centre-droit, eh bien il faut s'attendre à ce que l'incertitude sur la prochaine coalition de gouvernement dure jusqu'à la fin du mois, nous prédit le politologue Karl Gösta Bergström dans l'Express. Il va falloir compter avec trois petits partis suédois qui ont réalisé des scores historiques à leur échelle dans l'ombre de l'épouvantail xénophobe des démocrates de Suède. Ce sont les chrétiens démocrates, le parti de gauche et le centre. Ils n'ont certes pas réussi à concurrencer les vieux partis bourgeois qui n'ont d'ailleurs pas si mal résisté. Mais à ce stade, analyse la chaîne SVT, chacun tente de faire paraître sa victoire plus large qu'elle ne l'est vraiment pour peser dans les discussions à venir pour former une coalition. On reste donc bien finalement dans le scénario ultra classique des lendemains d'élections dans les démocraties du nord de l'Europe. La politique des blocs a encore de beaux jours devant elle. En Allemagne, à présent, les journaux tentent de se rassurer ce matin. Non, nous dit Der Spiegel, non, la petite ville de Köthen en Saxe-Anhalt n'est pas en train de devenir un nouveau Chemnitz. Pas encore, en tout cas. Comme à Chemnitz, il y a deux semaines, Köthen a été frappé par un fait divers. Ce week-end, la mort d'un jeune Allemand dans une bagarre avec deux réfugiés afghans. Et comme à Chemnitz, des groupuscules néo-nazis ou tout simplement l'extrême droite nationaliste et anti-migrant a appelé à des manifestations. Elles ont eu lieu, ces manifestations. Elles ont réuni 2500 personnes hier soir avec des slogans à la gloire du national-socialisme ou de la résistance blanche, comme nous racontent les reporters de Der Spiegel. Mais la violence est restée verbale, pas d'émeute ni de chasse aux migrants, comme à Chemnitz. Il faut dire, explique l'article, qu'entre les appels à manifester et l'heure du rassemblement, il y a eu un résultat d'une première autopsie donnée par la police. Il apparaissait que la victime, le jeune homme de 22 ans, n'était pas mort des suites des blessures causées par la bagarre, mais d'une attaque cardiaque, lui qui souffrait de problèmes au cœur. Voilà de quoi éviter sans doute l'emballement violent que l'on a pu voir à Chemnitz, mais la colère et la haine étaient bien là hier soir à Köthen, où les orateurs ont appelé la foule à manifester en masse le 9 novembre prochain à Berlin pour exiger une nouvelle fois la démission d'Angela Merkel.
Enfin, Camille, les médias américains n'en finissent pas de commenter la chute d'un de leurs plus éminents représentants, le désormais ex-patron de la chaîne CBS.
Il s'appelle Leslie Moonves et il apparaît aujourd'hui comme un homme puissant de plus, rattrapé par les accusations d'agression sexuelle accumulées tout au long de sa carrière au sommet. Le coup de grâce est venu hier du New Yorker qui a publié 6 témoignages de femmes qui disent être tombées entre les griffes du prédateur sexuel. Elles s'ajoutent à 6 autres victimes déjà dans le New Yorker au mois de juillet. Dès lors, eh bien, les investisseurs de CBS, dont Moons avait fait la chaîne la plus regardée d'Amérique, l'ont lâché. Le New York Times ce matin nous raconte les conditions de cette exfiltration. Le conseil d'administration de CBS va prélever 20 millions de dollars $1 d'indemnité de départ de Moon pour les verser à des associations qui œuvrent contre les violences faites aux femmes. Mais l'ex-tycoon pourrait tout de même partir avec 120 millions d'euros en poche. Indécent pour certaines victimes qui parlent dans la presse et dans le New Yorker. Le New Yorker qui rappelle donc que Moon est la dernière grande figure du show business américain à tomber après, bien sûr, Harvey Weinstein dans le cinéma, après d'autres également dans les grands médias américains. Ces scandales à répétition et au sommet nous rappellent que le monde du divertissement et de l'info aux États-Unis reste dominé par des hommes. Le New Yorker jette aussi la honte sur les sociétés qui employaient ces personnes et qui avaient connaissance de ces crimes, qui les ont couvertes pendant des décennies.
Merci beaucoup Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr. 7h42.